Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 3 septembre 2018. Ouverture du 7e forum sur la coopération sino-africaine. Pékin promet 60 milliards de dollars au continent. En République démocratique du Congo, interpellation de militants de la Lucha lors de manifestations contre la machine à voter. L'île Maurice revendique sa souveraineté sur l'archipel des Chagos devant la Cour internationale de justice. En Mauritanie, le pouvoir et les islamistes sont en tête des législatives régionales et locales selon les premiers résultats partiels. Et en Libye, les combats meurtriers continuent de faire rage en périphérie sud de Tripoli. La Minute Écho, les sports, ce sera juste après le journal. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, a promis 60 milliards de dollars au continent à l'ouverture du 7e forum sur la coopération sino-africaine à Pékin, qui réunit de nombreux dirigeants africains. Irénée Herman Ungbo nous en dit plus.
Le forum sur la coopération sino-africaine offre l'occasion au président chinois Xi Jinping de célébrer sa nouvelle route de la soie lancée en 2013, une initiative qui vise à développer la connectivité commerciale entre son pays et le reste du monde en vue de sécuriser ses approvisionnements. Le géant asiatique a investi annuellement plusieurs milliards de dollars en Afrique depuis 2015 dans des infrastructures ou des parcs industriels, des investissements salués par les pays africains qui espèrent ainsi accélérer leur développement économique. Mais ces investissements chinois suscitent des critiques croissantes des Occidentaux qui soulignent l'envolée de l'endettement de certains pays africains au point d'inquiéter le Fonds monétaire international. Ces investissements ne s'accompagnent d'aucune condition politique. La Chine ne s'immisce pas dans les affaires intérieures du continent et ne lui impose pas sa volonté, a déclaré Xi Jinping à l'ouverture des travaux du sommet. Le président de l'Union africaine, Paul Kagame, a accusé de son côté les Occidentaux de vouloir décourager les relations commerciales chino-africaines. Le forum de Pékin doit s'accompagner d'une série de contrats signés entre la Chine et ses partenaires. Le président nigérien Muhammadu Buhari devrait ainsi assister à la signature d'un accord sur les télécommunications financé par un prêt de 328 millions de dollars de la banque chinoise d'import-export Exim selon son cabinet. Xi Jinping s'est par ailleurs entretenu durant le week-end en tête-à-tête avec un grand nombre de chefs d'État comme les présidents béninois Patrice Talon et sénégalais Macky Sall. L'Eswatini, ex-Swaziland, est le seul pays manquant à l'appel au sommet de Pékin.
Des militants de la Lucha en République démocratique du Congo ont été dispersés et interpellés lors de manifestations contre la machine à voter à l'approche de la présidentielle du 23 décembre. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Une vingtaine de militants de Lucha ont été interpellés par la police devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Une forte présence policière était visible aux abords de la CENI. À Goma, la manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre. D'après le colonel Job Alissi, commandant de la police de Goma, une vingtaine de jeunes ont été interpellés. « Je n'ai pas autorisé la marche d'aujourd'hui. La police n'a fait que son travail de rétablir l'ordre », a dit de son côté le maire de la capitale du Nord Kivu, Timothée Mouissa Kiense. Le mouvement Lutte pour le changement a appelé à des marches pour exiger l'abandon des machines à voter lors des élections du 23 décembre. Ces machines qui serviront à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote sont au cœur d'une controverse entre la commission électorale et l'opposition. Jeudi, la CENI a dénoncé ce qu'elle qualifie de débat politique et d'intoxication au sujet des machines à voter et du fichier électoral.
La situation humanitaire à Lindao, dans le sud-est de la Centrafrique, est désastreuse à cause de la présence de groupes armés en ville, a estimé le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Plus de 37 000 personnes sont réparties dans 5 sites de déplacés. La présence d'hommes armés au sein de certains de ces camps, notamment celui de l'évêché, compromet l'assistance humanitaire, a précisé l'agence onusienne. Les Rwandais ont voté ce lundi pour élire leurs députés. Le Front patriotique rwandais au pouvoir, ses alliés et un parti d'opposition briguent 53 des 80 sièges de la Chambre basse. Les 27 sièges restants sont réservés d'office aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et organisations spécifiques. Dans le Parlement sortant, les 53 sièges sont tous détenus par le FPR et des alliés du gouvernement. Ouverture devant la Cour internationale de justice des débats sur les îles Chagos, objet d'un litige entre le Royaume-Uni et Maurice. Timothée Donangmaï nous en dit plus.
L'île Maurice revendique sa souveraineté sur cet archipel de 55 îles dont 3 sont habitées. Parmi celles-ci, Diego Garcia qui abrite une base militaire américaine. Le litige date avant l'indépendance de l'île Maurice en 1965. Les dirigeants mauriciens de l'époque affirment avoir cédé, sous la contrainte, la souveraineté de l'archipel au Royaume-Uni lors des pourparlers d'autodétermination. 2000 Chagossiens avaient été expulsés vers l'île Maurice ou les Seychelles et Londres avait versé 3 millions de livres en contrepartie. La manière dont les Chagossiens ont été ensuite traités est honteuse et nous la regrettons vivement, a déclaré ce lundi le député britannique et conseiller juridique du gouvernement Robert Brockland devant la CIJ. Toutefois, Londres a estimé que ce tribunal n'était pas l'endroit adéquat pour régler son différend avec l'île Maurice. La Cour internationale de justice doit entendre les arguments sur ce dossier et émettre un avis consultatif. Le processus prévu sur 4 jours verra la participation de l'Union africaine et de 22 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, des pays d'Asie et d'Amérique latine.
Les islamistes et le parti au pouvoir en Mauritanie sont en tête des législatives régionales et locales selon les premiers résultats partiels alors que le dépouillement se poursuit. Le parti Tewassoul et l'UPR émergent du lot si l'on regarde les résultats disponibles au niveau de tous les scrutins, indique une source proche de la commission électorale, estimant le niveau de compilation des résultats à environ 30% pour les législatives et 50% pour les régionales et municipales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France va concentrer ses moyens sur les pays pauvres et fragiles, essentiellement en Afrique, a annoncé ce lundi son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. L'aide française se faisait principalement ces dernières années sous la forme de prêts à destination de pays émergents solvables. Elle va désormais être en partie réorientée grâce à un quadruplement des dons qui passeront de 300 millions d'euros à 1,3 milliard l'an prochain. Encore des réactions après la condamnation à 7 ans de prison de 2 journalistes birmans de l'agence Reuters. Les États-Unis et l'ONU demandent leur libération. Le point avec Lionel Gaïma.
La condamnation de Wallon et Kiosodo est profondément dérangeante pour tous ceux qui soutiennent la liberté de la presse, a écrit l'ambassade américaine en Birmanie sur son site. De son côté, le représentant de l'ONU en Birmanie a aussitôt déclaré, après le verdict, que les États-Unis continuaient à demander la libération de 2 journalistes. Pour sa part, la France qualifie la condamnation de ces journalistes de sérieuses atteintes à la liberté de la presse et à l'état de droit en Birmanie. Un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a appelé à la libération de 2 journalistes. Les 2 reporters de l'agence de presse, en détention préventive depuis décembre, ont été condamnés ce lundi à 7 ans de prison pour avoir tous les 2 porté atteinte au secret d'État en s'étant procuré, selon l'accusation, des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité birmanes dans l'État de l'Arakan. Les 2 journalistes enquêtaient sur un massacre de membres de la minorité musulmane des Rohingyas dans un village. Quelques jours après leur arrestation, l'armée a reconnu que les soldats et des villageois bouddhistes avaient tué de sang froid des captifs Rohingyas le 2 septembre 2017 et 7 militaires ont été condamnés à 10 ans de prison pour ce massacre. La semaine dernière, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a demandé que le chef de l'armée et 5 de ses généraux soient poursuivis notamment pour génocide et crimes contre l'humanité.
Un soldat américain a été tué, un autre blessé dans l'est de l'Afghanistan, apparemment par des recrues locales, a annoncé l'opération de l'OTAN dans un communiqué. Sans préciser le lieu de l'attaque, l'OTAN évoque une apparente attaque de l'intérieur, ce qui signifie qu'un ou des soldats afghans ont ouvert le feu sur les instructeurs américains qui forment les forces gouvernementales. Un Palestinien armé d'un couteau a été abattu après avoir tenté d'attaquer des soldats israéliens postés en Cisjordanie. L'incident s'est produit près de la colonie israélienne de Kiryat Arba. La police palestinienne a identifié l'homme comme étant Wael Jabari, âgé de 27 ans. La colonie de Kiryat Arba, située près de Hébron, a été le théâtre de nombreuses attaques palestiniennes dans le passé. Le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, a exigé des géants du web qu'ils renforcent leur lutte contre les contenus pédopornographiques en ligne. Le ministre a dit vouloir le même effort et le même niveau d'engagement contre l'exploitation sexuelle des enfants que celui qui a été consenti par ces entreprises dans la suppression des contenus à caractère terroriste. Des mesures contraignantes seront prises si les compagnies du web ne renforcent pas elles-mêmes leur politique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le sommet Chine-Afrique s'est ouvert aujourd'hui, lundi, à Pékin. La coopération économique est au cœur de l'agenda. Pékin cherche à allonger sa liste toujours plus longue de pays amis, particulièrement dans le nord et l'ouest francophone du continent. Les entreprises publiques chinoises, en mal de matières premières, ont aussi investi massivement dans des pays comme le Soudan du Sud ou la RDC. Toutefois, les prêts chinois soulèvent des inquiétudes pour la stabilité financière des pays bénéficiaires à cause d'un lourd endettement pour de longues années. Par exemple, la dette publique de Djibouti a explosé de 50% à 85% du produit intérieur brut en l'espace de 2 ans. La tournée africaine de la première ministre britannique Theresa May a permis de conclure 300 millions de livres sterling d'accords d'investissement. Ce financement sera injecté dans plusieurs secteurs et devrait créer plus de 3000 emplois à travers le continent, principalement dans les pays visités, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Cette série d'accords représente la première étape d'une stratégie de conquête du marché africain par Londres. Le président américain Donald Trump a menacé de retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale du commerce en cas d'absence de progrès dans les réformes. Pourtant, Washington a contribué à mettre sur pied l'OMC après la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Trump a qualifié l'accord portant création de l'organisation du pire accord commercial jamais conclu.
Présent les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous.
Alors, quelle opposition en quart de finale des Coupes Interclubs?
Nathalie, on le saura, et dans les minutes qui suivent pour la Ligue des Champions, le tirage au sort se fait présentement au Caire en Égypte donc. Mais pour ce qui est de la CAF, c'est déjà fait et on aura les rencontres Rayon Sport du Rwanda et Nimba du Nigeria, Kara de Brazzaville, Raja Casablanca, El Masri d'Égypte, USM Alger et les Marocains de Berkane feront face aux Congolais de V-Club.
Disqualifié pour le tournoi qualificatif de la CAN des moins de 17 ans, le Bénin contre-attaque.
Alors qu'il devait débuter ce tournoi qualificatif aujourd'hui, même contre la Côte d'Ivoire dans la zone UEFA B, le Bénin a été disqualifié par les contrôles IRM effectués par la CAF. Ces contrôles ont mis en évidence 10 cas de fraude sur l'âge parmi les 18 joueurs de l'effectif des écureuils des moins de 17 ans. La fédération béninoise a réagi via un communiqué soulignant qu'elle entend faire reprendre par le deuxième cabinet d'analyse agréé par la CAF à Niamey un test d'IRM en vue d'une contre-expertise.
Mohamed Salah sur la liste des 3 finalistes pour le titre de meilleur joueur FIFA de l'année.
Oui Nathalie, sans surprise, l'ailier de Liverpool se disputera la couronne avec Cristiano Ronaldo qui a quitté le Real Madrid pour la Juventus et le merengue Luka Modric élu vendredi dernier meilleur joueur UEFA de l'année. Mo Salah est aussi en lice pour le prix Puskas qui récompense le but de l'année. Dans la catégorie du meilleur entraîneur, ça va se jouer entre l'entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, finaliste malheureux du mondial russe, Didier Deschamps, champion du monde 2018 avec la France, et Zinedine Zidane, vainqueur du trophée en 2017 et trois fois vainqueur de suite de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Les lauréats seront désignés le 24 septembre à Londres.
Et Yaya Touré de retour à l'Olympiakos.
Tout à fait, libre depuis juin. Après 8 ans passés à Manchester City, l'international ivoirien a répondu en terrain connu. Le milieu de 35 a signé avec son ancien club grec de l'Olympiakos. Le champion d'Afrique 2015 avait porté les couleurs du club du Pirée lors de la saison 2005-2006 avant de signer à l'AS Monaco, au Barça, puis à Manchester City. L'éléphant disputera la Ligue Europa avec le club grec.
Un grand merci Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. À l'occasion de l'ouverture du 7e forum sino-africain à Pékin, ce 3 septembre, nous nous intéressons à la coopération entre la Chine et le continent. Comment est-elle vécue et appréciée par les citoyens des pays d'Afrique? Penchons-nous un instant sur le cas du Niger avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Comparé aux autres, c'est une coopération meilleure.
Depuis 1974, date de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, presque tous les grands projets structurants de la capitale nigérienne ont été réalisés par la Chine. Du stade omnisport de Niamey à l'hôpital général de référence, en passant par les ponts sur le fleuve Niger ou encore les échangeurs et autres routes. C'est aussi avec la Chine que le Niger a débuté l'exploitation de son pétrole à Difa. Les Chinois sont également dans le domaine presque exclusivement français de l'extraction de l'uranium nigérien. Aussi, c'est une entreprise chinoise qui a récemment obtenu le marché de construction du premier barrage hydroélectrique du Niger. En somme, une coopération pragmatique et visible, fortement appréciée par les Nigériens.
Les Chinois viennent travailler avec les réalités du terrain et ils offrent leur technicité et leur expertise pour utiliser ce qu'il y a dans le terroir et au profit et à l'adaptation des populations qui doivent
vivre. Vous savez, les pays occidentaux le plus souvent posent des conditionnalités, souvent quand il y a des problèmes au niveau de la gouvernance. Je pense que les Chinois ne sont pas très regardants par rapport à cela. Quand vous êtes dans des difficultés, on vous demande d'aller vers le FMI et la Banque mondiale et ainsi de suite. En cas, dans les projets, la réalisation de projets concrets, on se rend compte que la Chine ne pose pas tellement de questions. Ce qui l'intéresse, c'est la réalisation de ces projets. En tout cas, par rapport à la coopération traditionnelle, on se rend compte que celle chinoise est encore un peu plus visible.
Au-delà du pragmatisme et de la visibilité des investissements chinois comme raison de ses fleurs jetées à sa coopération avec le Niger, il y a aussi la souplesse dans le remboursement des prêts contractés, estime Ali Gimba, homme d'affaires, membre de la commission paritaire de la Chambre de commerce du Niger.
Pour nos économies fragiles et qui ont besoin d'investissements directs, on ne peut pas avoir mieux. D'autant plus que ces investissements reposent aussi sur des mécanismes de remboursement sur le long terme. Donc les termes et les échéances de remboursement sont suffisamment amples pour nos économies que les capitalistes, les États traditionnels, Europe, ne peuvent pas nous accorder ces facilités-là. Et vu la dégradation des structures financières de nos économies, moi je dis aujourd'hui, la meilleure approche pour l'Afrique, d'une manière générale et pour le Niger, ce sont ces Chinois-là.
Une coopération exemplaire, saluée, mais pas sans reproche, puisque les Chinois, comme les autres, ne sont pas des philanthropes.
La Chine construit un certain nombre d'infrastructures, mais la Chine s'intéresse aussi à notre uranium et à notre pétrole. Je vois de sorte qu'il n'y a pas de coopération, en tout cas sans arrière-pensée.
Si on pense qu'il y a de l'intérêt là-dedans, je pense que cet intérêt-là n'atteint pas l'intérêt de ceux qui donnent et qui viennent récupérer tout ce qu'ils ont donné.
Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, la commune du 9e arrondissement de N'Djamena est inondée depuis un mois. C'est généralement en période de crue que la population subit cette montée des eaux des fleuves Chari et Logone. C'est pourquoi les habitants se disent surpris d'être dans cette situation alors que ces fleuves ne connaissent pas encore cette période. Le correspondant de VOA Afrique, André Kodmajingar, s'est rendu sur place.
Nous sommes au quartier Ngangali, section 1 et 2, situé à une dizaine de kilomètres dans la commune du 9e arrondissement municipal de la ville de N'Djamena. Ce quartier est envahi par l'eau il y a environ un mois. Plusieurs maisons sont écroulées faisant des sans-abri et des blessés. Ceux qui ne savent où aller sont obligés de passer leur nuit dans ces habitations fortement humides avec tous les risques de santé que cela comporte. Interrogé par VOA Afrique, quelques habitants ignorent l'origine de cette inondation.
La source de l'eau, la même, on ne connaît pas. Notre carré est ce comme bas fond d'eau. Donc l'eau vient de tous côtés. On a rempli les sacs avec du sable pour mettre ça à l'intérieur, mettre le matelas. Parce que en bas, tout est mouillé.
On souffre beaucoup avec mes enfants. Avant, faire le marché, d'abord, on va venir manger. Mais maintenant, l'eau nous a bloqué comme ça. Les maladies, là même, ça nous menace beaucoup. Nous, tes enfants, là, c'est tout, le palais, on souffre les diarrhées, tout ça comme ça.
Franchement dit, nous sommes devenus de crapauds. J'ai un voisin du nom Samson, sa maison a été cassée deux fois. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, il aurait parti avec tous ses enfants. Il avait eu des blessures sur sa tête.
Pour le géologue Dr Djemadoum Nambatindar, c'est le changement climatique et la culture du riz sur le passage des eaux qui seraient à l'origine de cette inondation.
Il y a un an, deux ans, des gens ont remarqué que le terrain est très riche en culture de riz. Donc maintenant, cette année, tout le monde presque s'est mis derrière là, à improviser les rizicoles. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font parce que ça provoque en amont une sorte de bassin de rétention. Même cet été là, en Europe, c'est une chaleur insupportable. Ça, ça a été prévu il y a 10 ans déjà qu'on va rentrer dans ces cycles de ces changements climatiques. C'est là. Donc N'Djamena doit faire attention.
Le maire de la commune du 9e arrondissement municipal de N'Djamena, Mahamad Kirima Saleh, se dit lui aussi surpris de voir sa population dans cette situation désastreuse.
Les gens ont reçu des terrains d'une manière traditionnelle et ils ont commencé à construire sans un plan d'aménagement. Nous sommes dans une commune semi-rurale, donc on ne peut pas faire tout à la fois. Mais c'est un problème qui est arrivé subitement. C'est à partir de ce moment qu'on va mettre une équipe sur place pour faire le recensement. Combien de personnes qui se trouvent dans l'eau? Nous allons chercher un espace, on va le mettre en attendant qu'il y ait une solution définitive.
Paradoxal que cela paraisse, c'est depuis un mois que cette population vit dans le désarroi sous le nez des autorités qui veulent faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique centrale. Mais aucune institution étatique, notamment le ministère en charge de l'action sociale, moins encore les ONG œuvrant dans le domaine humanitaire, ne se sont manifestées. André Kodmajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
C'est la rentrée scolaire en République démocratique du Congo ce lundi 3 septembre, comme dans d'autres pays africains. Une rentrée difficile pour la majorité des élèves issus de familles à faible revenu qui ne parviennent pas à acheter les fournitures nécessaires. Notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouero, nous dresse un plan de la situation au sud Kivu, dans l'est du pays.
Dans plusieurs familles, les enfants de l'école primaire et secondaire sont très excités à l'idée de reprendre le chemin de l'école, mais ils ne connaissent pas combien ces moments préoccupent au plus haut point leurs parents, affirme maître Jean-Claude Mirindi.
À l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore pu réunir tous les fournitures scolaires pour mes enfants. Et je dois dire que la majorité de parents aujourd'hui sont dans cette même situation. Au-delà de fournitures scolaires, nous avons encore affaire à l'éternelle question de prise en charge des enseignants par les parents.
L'entrée des classes est aussi un moment de stress pour les enseignants. Jacques Tirimouami est secrétaire provincial du syndicat des écoles conventionnées catholiques au Sud Kivu.
Nous partons enseigner bien sûr ce lundi, mais nous allons plus enseigner les enfants des autres qui ont des moyens que nos propres enfants. Parce que nous étions en assemblée générale des enseignants. La plupart de nous n'a pas jusque-là payé les fournitures scolaires par manque de moyens. Les écoles aujourd'hui exigent les frais d'inscription. Aucun enseignant n'est capable de trouver cette somme pendant la période des vacances.
En cette période, les marchés sont très achalandés en fournitures scolaires, mais selon la vendeuse Moussi Mwazigabe, leurs marchandises s'écoulent à compte-gouttes.
Vraiment, ça ne va pas. Nous manquons les clients. Tous les clients que nous avons, ils commencent à acheter les objets classiques à l'école.
Déo Dialunda, enseignant et syndicaliste, confirme que certains chefs d'établissement ont transformé les écoles en lieu de vente des objets classiques.
Ils appellent les parents qui ont plein d'inscriptions, qui leur obligent d'acheter les uniformes au sein de ces écoles-là. Et à un prix élevé par rapport au prix du marché. Mais normalement, l'État doit percevoir des taxes parce que ces écoles sont devenues des magasins, au même titre que les magasins qu'on trouve dans la ville de Bukavu.
Fort du constat qu'à chaque rentrée des classes, des centaines de familles n'amènent pas leurs enfants à l'école faute des moyens pour payer leurs études, des voix s'élèvent de plus en plus à Bukavu pour une solidarité en faveur de ces enfants. La fondation d'Avchika et la campagne Une main dans le panier, zéro enfant oublié ou exclu de l'école, s'emploient déjà à récolter des dons en faveur des enfants vulnérables. Rémi Kassindi est l'un des initiateurs de la campagne.
Nous nous sommes dit que nous devons venir en aide à ces enfants. Parmi ces gens, nous allons choisir les plus vulnérables qui vont bénéficier des aides que les ambassadeurs de l'article 43 sont en train de récolter sur le terrain.
L'article 43 de la Constitution congolaise consacre les caractères gratuits et obligatoires de l'enseignement primaire dans les établissements publics en RDC. De Bukavu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ici, aux États-Unis, le premier lundi de septembre est dédié à la fête du travail. Toutefois, on entend rarement les revendications des travailleurs américains le jour du Labor Day. Au 19e siècle, des défilés de syndicalistes étaient organisés, notamment à New York. Pour l'occasion, le président Donald Trump a déclaré dans un tweet que le marché du travail aux États-Unis se portait mieux que jamais. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Washington l'ancien diplomate américain Herman Cohen.
Ça dépend. Il y a des bonnes statistiques. Par exemple, le chômage est moins de 4%. Il n'y a pas de précédent pour ça. C'est presque le plein emploi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. N'importe quel travailleur qui est en chômage peut trouver un travail. La mauvaise nouvelle, c'est que le croissement de l'économie ne donne pas beaucoup d'argent supplémentaire aux travailleurs. Il paraît que tous les grands bénéfices vont aux actionnaires des sociétés. Les sociétés qui gagnent de l'argent rachètent des actions. Et donc, l'argent passe aux actionnaires. Tandis que les ouvriers n'avancent pas beaucoup. Oh, on peut pas dire plus que la moitié. Non, ça c'était exagéré. Mais il y a un certain nombre de gens, surtout par exemple dans certains états, des enseignants gagnent pas beaucoup. Les policiers, les pompiers, etc. Les travailleurs dans l'Amazon, par exemple. C'est vrai. Et à cause de ça, vous avez beaucoup de gens qui ont voté pour M. Trump. Donc, c'est vrai que il y a un mécontentement parmi beaucoup d'Américains dans le secteur ouvrier.
Et qu'est-ce qui peut se faire pour qu'un Américain vive mieux avec un seul travail?
Il y a un mouvement maintenant dans le Congrès d'augmenter le SMIC. Maintenant, depuis longtemps, le SMIC américain reste à 7,50 $ par heure. Il y a un mouvement maintenant d'élever ça jusqu'à 15 pendant les prochaines 5 années. Et dans certains États, par exemple l'État de Washington dans le Nord-Ouest et dans la ville de Washington, la capitale, ils ont fait ça. Donc c'est une solution.
Et sur le droit du travailleur aux États-Unis, est-ce que vous pensez que le travailleur, il est mieux protégé ici qu'en Europe ou en Afrique?
Un problème aux États-Unis, c'est que les syndicats sont devenus très faibles depuis les dernières 30 années. Avant, les syndicats pouvaient négocier des très bonnes conditions de travail avec des meilleurs salaires. Mais à cause de l'opposition politique des conservateurs, les syndicats sont assez faibles, sauf peut-être dans l'industrie d'automobile. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de recruter des ouvriers pour appartenir au syndicat. Le meilleur exemple, je crois que c'est en Allemagne, où les syndicats ont des représentants dans les conseils d'administration. En Allemagne, vous avez beaucoup moins de difficultés parmi les salariés et les ouvriers.
C'était Hermann Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joseph Morissin. À la console, Joseph Gill. À la présentation, Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée en compagnie de Henri Francisque pour le point sur l'actualité dans le monde.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.